Bonjour à toutes et à tous, comment aider les femmes en situation de grande précarité? Cette semaine, je reçois Cécile Tarquini. Cécile dirige le Filon, un accueil de jour situé dans le 17e arrondissement de Paris, dédié aux femmes isolées en situation de grande précarité. Qu'elles soient hébergées ou sans abri, le Filon accueille chaque jour une trentaine de femmes qui viennent se poser en sécurité, partager un repas, prendre une douche, bref, avoir du temps pour soi. L'une des femmes témoigne « Le lien et la chaleur, ne plus me sentir seule, c'est aussi ça que je viens chercher. Ça me permet de m'évader un temps, de parler de mes problèmes à d'autres qui vivent la même chose que moi. » Cécile est une jeune directrice d'association qui a commencé un parcours professionnel plus classique, mais elle a la cause sociale chevillée au corps et c'est aussi de son propre parcours d'engagement qu'elle nous parle dans cet épisode. Pourquoi y a-t-il de plus en plus de femmes sans abri? Et de quoi ont-elles le plus besoin? Vous le saurez en écoutant mon échange avec Cécile Tarquini. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale raconté par ceux qui la font, ceux et celles qui la font, puisque ce matin, j'ai le plaisir d'être avec Cécile Tarquini. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Cécile, tu es directrice de l'association Le Filon, qui est un accueil de jour dédié aux femmes en situation de précarité. Tu vas nous dire quelques mots sur d'abord qui tu es et puis quel est ton parcours, comment est-ce que tu en es arrivée à monter cette association, qu'est-ce que vous y faites et quelles sont vos joies, vos peines, vos défis, enfin bref, on veut tout savoir. C'est bon pour toi, Cécile?
Très bien. Eh bien, moi, donc je suis Cécile, effectivement. J'ai rejoint l'association en 2018. Donc, je ne suis pas la fondatrice, mais j'ai rejoint le projet alors qu'il avait un an à peu près, qu'il avait été monté par Perrine Meunier. Et donc, j'ai rejoint cette petite équipe, cette association qui venait de naître. On accueillait encore très très peu de femmes. Et petit à petit, l'association a grandi, le nombre de salariés aussi. On a structuré un petit peu tout ça. Et aujourd'hui, le Filon est à 4 salariés, dont 3 éducatrices spécialisées. Et moi-même, je m'occupe de la gestion de l'association et puis de tout ce qui est déploiement, développement, etc., etc. Et l'association, en fait, pourquoi est-ce qu'on l'a créée? C'est que... on s'est rendu compte qu'il y avait un manque de structure sociale dédiée au public femme exclusivement, dans le nord-ouest parisien, et que beaucoup de dispositifs d'accueil de jour étaient calés sur des besoins d'hommes sans domicile. Alors que les femmes, il y a bien évidemment des problématiques qui sont communes, mais il y a aussi des spécificités, et notamment le fait d'avoir un lieu où on se sent en sécurité, un lieu repère, un lieu où on peut arriver quand on est au plus mal et puis se reconstruire petit à petit, puisque c'est ça qui est ce lieu-là. Et puis dans ce lieu, on fait plein de choses. C'est un lieu qui est participatif, donc c'est un lieu qui est vraiment plein de vie et qui est construit un petit peu au jour le jour par les personnes qui le fréquentent. Évidemment, il y a un cadre, hein, il y a une structure, mais disons que on le fait vivre et on en prend soin toutes. Donc quand je dis toutes, c'est les personnes salariées, les bénévoles et les personnes accueillies et accompagnées. Et puis il y a des services qui sont assez essentiels quand on est une femme en situation de grande précarité. En cuisine, donc il y a une cuisine aussi qui est mise à disposition des personnes quand elles le souhaitent, mais la cuisine sert surtout à préparer de magnifiques repas et on essaie de préparer des choses qui soient très bonne, chaude et équilibrée, puisque c'est important et que les personnes n'ont pas forcément accès. D'ailleurs, la majorité des femmes qui consomment leur repas au Filon, pour elles, c'est parfois le seul repas chaud de la journée. Donc, c'est important qu'on puisse le proposer.
On va découvrir tout ça ensemble et tu vas nous dire un petit peu plus ce que vous faites dans l'association. Est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours à toi, Cécile? Qu'est-ce qui t'a emmené à t'engager? C'est quoi, toi, ton parcours d'engagement?
Mon parcours d'engagement, en fait, il commençait avec le Filon. Donc, j'étais, je veux dire, un engagement plus important, c'était vraiment celui du Filon, puisqu'il m'a amené à être ensuite salarié. Mais auparavant, en fait, je travaillais dans la gestion de projet. Je travaillais dans une agence aussi qui représentait des artistes, donc qui est musicien, acteur, actrice, voilà, dans un groupe assez important. Et en fait, j'en ai eu, bon, j'en avais un petit peu marre de ce monde-là. Je venais aussi auparavant, j'avais une autre expérience plutôt dans tout ce qui est, bah, toujours gestion de projet, mais plutôt communication. Donc j'ai un parcours qui est très très éloigné du monde et du champ social, on va dire, du secteur associatif également. Mais j'avais déjà, voilà, j'ai toujours été assez sensible au sujet de grande précarité, notamment. En fait, j'avais déjà, en fait, abordé pas mal la thématique dans des lectures, dans pas mal de choses. Et puis, il y a un moment où bah, j'étais en reconversion, donc, comme plein de gens. Puis je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais m'engager bénévolement dans une structure. Et c'est là où j'ai rencontré en fait Perrine Meunier, qui a fondé l'association Le Filon. Et très vite, l'association avait besoin de profils très différents, et notamment qui venaient du travail social, mais pas que. Et c'est comme ça que je me suis inscrite dans ce projet-là. Et qu'au début, bah, je ne pensais pas du tout travailler dans le social. J'avais cet intérêt vif pour tous les sujets, on va dire, de la grande précarité, mais je ne pensais pas y travailler, je ne pensais pas y être salarié. Mais la structure et le projet étaient tellement chouettes, et surtout répondaient à des besoins qui étaient vraiment, vraiment nécessaires. Et ça, je pouvais le constater quotidiennement, en fait, dans mon expérience aux côtés des personnes, que voilà, je me suis dit, allez, ça y est, quand on m'a proposé d'y travailler, je me suis dit, je fais ça et je verrai bien. Et maintenant, bah, voilà, je pilote l'association.
Il y a quelque chose qui t'a touché particulièrement dans l'action du Filon. Tu parlais du sujet de la grande précarité. Est-ce que c'est ça qui t'a touché ou autre chose?
Oui, bien évidemment. Moi, je trouve que voilà, il y a une précarisation un petit peu générale qui se met en œuvre. Là, on parle de personnes qui sont encore dans une autre situation, donc la grande précarité. Donc, c'est quelque chose qui est encore plus fort. Et bien évidemment que ce sont des choses qui me touche et qui me traverse et qui me voilà et qui pose des questions, on va dire, qui sont des questions très globales sur le fonctionnement de nos sociétés. Et puis pourquoi est-ce qu'on arrive à avoir des personnes qui se retrouvent vraiment en grande précarité. Donc ça, voilà, on peut avoir une partie des réponses, mais voilà, moi, c'est des questionnements qui m'intéressent, des analyses aussi qui m'intéressent. Mais après, l'aspect militant, moi, je ne l'applique pas forcément dans mes tâches quotidiennes au Filon. Pour moi, c'est vraiment être à l'écoute des personnes et vraiment répondre au mieux à leurs besoins, et de ne pas faire de projection aussi sur ce que les personnes en précarité... Ce dont elles auraient besoin, mais c'est vraiment de pouvoir répondre à leurs besoins et par rapport à là où elles en sont dans leur parcours. Et moi, ce qui m'a plu énormément, c'est l'idée de se dire que voilà, il y a un lieu où on peut arriver quand on est au plus bas, et puis on peut se reconstruire. Et puis c'est un lieu qui est fait aussi de plein de joie et de plein d'échanges entre différentes personnes, entre bénévoles, salariés et les personnes accompagnées. Donc toutes entre nous, on vient d'horizons très très différents. Donc il y a un mélange qui est très intéressant, une mixité qui est hyper intéressante. Mais c'est aussi en fait de voir, voilà, de voir la vie dans des situations, dans des moments de vie qui sont très difficiles, de voir en fait comment la joie et arrive à être toujours là parfois, et parfois comme elle rejaillit petit à petit. Et ça, ce n'est pas du tout grâce au Filon, mais c'est les ressources qu'on a toutes en nous. Mais voilà, les lieux comme le Filon permettent, on va dire, de rallumer un petit peu cette petite étincelle. Donc voilà. Mais je tiens à préciser que on ne sauve personne, et que ça, c'est hyper important de le dire, parce que parfois c'est des mots qui reviennent beaucoup dans le vocabulaire quand on travaille dans le champ social, surtout pour les personnes qui sont extérieures à ce monde-là. Et donc des fois, on a l'impression que quand on est bénévole, c'est ça qu'on vient faire dans les structures. Ben non, en fait, les personnes, elles ont les ressources en elles pour se stabiliser, pour se reconstruire, certaines, pas toutes. Mais l'important, c'est justement de pouvoir les accompagner et arriver au bon moment où qu'elles, elles arrivent, Elles décident d'arriver au bon moment, en fait, dans des structures auprès de personnes en qui elles ont confiance. Voilà.
Dans votre activité d'accompagnement, justement, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous ne faites pas avec ces femmes en grande précarité?
Alors, ce qu'on fait, on fait pas mal de choses parce qu'on travaille sur beaucoup de problématiques. Dans la grande précarité, il y a beaucoup de choses qui se cumulent. Donc, on fait tout ce qui est accès à l'hébergement, au logement, parcours de soins. On a une grande attention à la santé mentale aussi des personnes qui viennent. Donc, on a des intervenants médicaux qui interviennent donc, du coup, dans nos murs directement. Donc, c'est tout ce qui est infirmiers, psychiatres et psychologues. On a l'accompagnement vers l'accès à la formation, à l'emploi, et puis à l'information aussi de manière très générale, parce qu'on a pas mal d'activités et d'ateliers collectifs où on fait beaucoup de sensibilisation et de voilà, comment on va déclarer ses impôts, par exemple, qu'est-ce que sont tout autre sujet, mais voilà, beaucoup aussi autour de la santé sexuelle, des violences. Donc c'est très vaste. Et ce qu'on ne fait pas, on ne fait pas d'hébergement de nuit, par exemple. Voilà, ça c'est une question qui revient souvent, c'est de dire, mais pourquoi on accueille de jour alors que les personnes ont peut-être besoin d'être logées, et besoin d'avoir un toit sur la tête? Alors, ce n'est pas les mêmes types de dispositifs, et ça, il faut en être bien conscient, et qu'aujourd'hui, l'accueil de jour, ça permet vraiment un lieu repère en journée, avancer dans ses démarches, et qu'on ne peut pas tout faire. Et que les dispositifs nuit, ce sont d'autres structures avec d'autres compétences aussi, et d'autres actions, et d'autres types d'interventions. Donc souvent, ce sont des choses qui sont séparées, mais extrêmement, extrêmement complémentaires. Voilà.
Tu nous disais tout à l'heure, Cécile, que le sujet de la précarité chez les femmes n'est pas forcément le même que chez les hommes. Est-ce que tu peux détailler ce que tu veux dire par là?
Alors, bon, je ne suis pas sociologue, je le précise, mais en tout cas, il y a des grandes, voilà, des choses qu'on peut observer. Et puis c'est vrai qu'en fait, on a dans l'imaginaire collectif, la personne sans domicile fixe, voilà, ce sont des personnes qu'on voit dans l'espace public, alcoolisées ou qui ont des troubles psy. Voilà, bien sûr, ça existe, il y en a, et c'est ce qu'on voit. Et il y en a, et ça, c'est tous les genres. Voilà, qu'on soit homme, femme, il n'y a pas de, ça concerne tout le monde. Mais après, il y a aussi toute une partie, en fait, de femmes qui sont très précarisées et qui sont un peu invisibles, qu'on voit pas forcément dans l'espace public et qui sont chez des tiers. Et qui c'est beaucoup d'aide à la personne, mais qui sont, voilà, elles vivent chez des tiers sans aucune ouverture de droit, quel qu'il soit. Et puis, un jour, ça se passe mal. Donc, voilà, c'est je vous loge contre d'autres services. Donc, ça peut être perçu comme, voilà, même de l'esclavisme moderne, hein. Je veux dire,
Ouais, c'est
il y a
ça, ça
aussi
ressemble à
cette
l'esclavage,
notion-là.
ouais.
C'est un peu de l'esclavage moderne aussi. Et puis, à un moment, elles veulent en sortir, et puis elles se rendent compte qu'en fait, que c'est compliqué, qu'il n'y a pas de solution, qu'il y a des droits qui n'ont jamais été ouverts, qu'en fait, elles sont complètement invisibles, et elles passent un petit peu comme ça entre les mailles du filet. Donc nous, on accueille beaucoup aussi ces personnes-là qui alternent des nuitées d'hôtel, l'appel au 115 et l'hébergement chez des tiers, qui sont dans des situations extrêmement précaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué, qui est vécu beaucoup par des femmes, en fait. Voilà. Et puis après, il y a tout ce qui est aussi grande précarité et violence. Donc, on rappelle que voilà, toutes les femmes qu'on accueille, le 100% des femmes qui sont accueillies ont des violences, quelles qu'elles soient. Et donc, précarité et violence s'alimentent énormément. Donc, ça, c'est aussi important de bien noter. Ce qui fait que derrière, eh bien, les problématiques à traiter sont différentes, et qu'il y a aussi, au-delà des démarches administratives et de ce qu'on fait en termes d'accompagnement social, il y a aussi de tenir compte, en fait, de la situation psychique et de vulnérabilité dans lesquelles sont les personnes qu'on accueille, et qui sont dues notamment, voilà, à des violences subies, qu'elles soient physiques, sexistes, sexuelles, administratives, psychologiques, enfin bon, bref, il y en a beaucoup. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Ouais, si, si, ouais, tout à fait. On essaye de se projeter un peu. Est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire d'une des personnes que vous accompagnez, qu'on comprenne aussi quel est son profil, on va dire, et puis aussi comment est-ce qu'on en arrive là, en fait, cette grande précarité, d'où est-ce qu'elle vient?
Alors, il y a, je dirais, autant de situations que de parcours différents. C'est très compliqué de faire de mettre des dénominateurs communs, si ce n'est peut-être effectivement les violences. Des exemples que je peux donner, bon, bah voilà, on a une partie des femmes qu'on accompagne qui sont des femmes exilées, donc qui sont parties de leur pays d'origine et qui ont un parcours d'exil extrêmement compliqué pendant lequel elles ont vécu différentes choses très, très difficiles et donc traumatisantes, qui arrivent en France et qui ont l'impression que ça va aller et que finalement elles vont avoir un tas sur la tête et que la situation va se stabiliser. Et puis en fait, c'est un petit peu la douche froide. Donc ça, c'est beaucoup de personnes qui arrivent au filon, voilà, qui sont dans ces réflexions-là et qui se rendent compte que ça va pas être simple. Et après, parmi ces personnes-là, on a des personnes qui effectivement arrivent à se stabiliser dans l'hébergement et puis arrivent à rencontrer des personnes, arrivent à être en lien, arrivent à reprendre des formations. Et puis après, quand administrativement elles sont plus bloquées, leur situation administrative se débloque, peuvent effectivement se stabiliser, voilà, avec un soutien psy à côté, quand c'est possible, dans les structures, c'est essentiel parce que ce qu'on a vécu, ça ne s'efface pas. C'est pas, voilà, le matériel qui efface les traumatismes, mais disons que voilà, il y a des très belles histoires comme ça de personnes qui sont arrivées et qui étaient vraiment en situation de rue et qui aujourd'hui ont pu accéder à un logement social. Donc c'est extrêmement c'est assez c'était assez au fil. Et puis après, il y a des moments où ça bloque moins, mais ça, c'est l'administration qui bloque. Et quand on n'a pas de papier, parfois on n'a pas de papier et c'est compliqué. Donc les situations administratives, elles peuvent être aussi nombreuses. Et là, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Et bah, on va essayer de travailler sur tout ce qu'on peut faire à côté, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire à côté. On peut se former, on peut travailler à des perspectives, à des projets. On peut faire du bénévolat, pas chez nous, mais on peut faire du bénévolat ailleurs. Alors certes, ça ne va pas. Ça va pas nourrir le porte-monaie, mais ça permet, voilà, de se sentir utile aussi et de reprendre un peu le quotidien. Après, on a des personnes aussi qui sont passées par l'aide sociale à l'enfance et qui ont du coup un parcours d'errance assez important et assez prolongé. Et puis tout à coup, ben voilà, qui retrouvent une stabilité dans un hébergement, puis dans un logement, pour qui, voilà, ça reste pas facile, mais voilà, il y a bien évidemment des situations qui se stabilisent. Il y a des personnes qui viennent avec leurs enfants parce que, voilà, elles veulent faire soigner leurs enfants, et puis bah, on les accompagne, et puis bah, elles passent par différentes choses qui sont très difficiles, mais voilà, on a le cas d'une dame qui s'en est très bien sortie, qui aujourd'hui a un travail, a une situation tout à fait stable, et ses enfants. Et tout va bien pour ses enfants. Donc il y a beaucoup de situations. Ça dépend, tout dépend de là où on part et on arrive avec quoi et qu'est-ce qui est possible de faire et quels sont les freins. Mais il y a vraiment de tout. Il y a des personnes qui sont dans une errance passagère parce que étudiante et puis il y a des petites fragilités quelque part ou des mauvaises rencontres ou des choses comme ça qui font que on est en situation de grande précarité pendant un temps et puis petit à petit on en sort parce qu'on est stabilisé, mais voilà, on reste quand même dans une précarité, on va dire. Donc beaucoup de situations différentes et beaucoup de trajectoires positives et heureuses et beaucoup pour qui ça reste compliqué, mais on arrive à trouver du sens aussi malgré tout. Voilà. Il y a toujours.
Voilà.
C'est ce qu'on voit en
Voilà.
fait les personnes qu'on accueille, c'est que malgré toutes les difficultés dans lesquelles elles sont, il y a toujours cet espoir. En tout cas pour celles qui fréquentent les accueils de jour, parce qu'après il y a plein de gens qui justement n'ont pas non plus cette. l'impulsion, ou la motivation de faire des démarches et de passer la porte d'un dispositif. Mais quand c'est le cas, c'est qu'il y a encore quelque chose qui est là.
Merci Cécile. C'était quand ton dernier grand moment de fierté?
Mon grand moment de fierté, moi j'ai pas de fierté perso à proprement parler par rapport au filon, parce que pour le type de travail qu'on fait, c'est vraiment un travail d'équipe, et même sans nos partenaires, on pourrait pas avancer. Donc j'aime pas trop parler de fierté en thème personnel, mais en tant que filon, on peut avoir, oui, la fierté de voir qu'il y a des situations qui se débloquent, que des personnes accèdent au logement, pas à l'hébergement, mais à au logement, donc dans un logement stable où elles vont pouvoir y rester. Des personnes qui ont pu obtenir leurs papiers finalement, des personnes qui ont pu revoir leurs enfants parce qu'il y a des freins qui ont été levés et qui aujourd'hui peuvent développer aussi des liens de confiance avec d'autres personnes. Mais ça, c'est pas le filon, c'est elle, encore une fois, mais c'est comment aussi des lieux comme ça, ressources, peuvent faire que elles ont un parcours psy et que derrière il peut y avoir des choses qui se débloquent. Il y a beaucoup beaucoup de choses dont on peut être très content par rapport au travail mené des équipes et par rapport aussi au parcours qu'ont entrepris les personnes. Mais voilà, c'est des je sais pas si on peut dire ça, mais c'est des fiertés qui sont partagées, on va dire.
Ouais. C'est ça, c'est-à-dire que c'est forcément un travail collectif, enfin tout le travail d'accompagnement que tu fais, que vous faites auprès de ces femmes, ça nécessite à la fois des compétences multiples et puis un engagement de plusieurs personnes autour de ces femmes. Et c'est super et bravo de faire ça. Inversement, est-ce que il y a eu des moments pour toi, est-ce que tu as des moments de doute, de colère, de tristesse, d'inquiétude, enfin. Voilà, qu'est-ce qui te turlupine, qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit, Cécile?
Ah, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Les financements.
Ouais, ok.
Moi, je suis directrice d'une asso, donc je dois faire tourner l'association. Il y a un conseil d'administration, bien évidemment, mais c'est moi qui fais la recherche de financement. Et c'est toujours plus compliqué de financer des associations. Donc, on a des gens qui nous financent et merci à eux. Mais disons c'est toujours la même histoire, c'est que on fait un travail qu'on n'est quand même pas censé faire dans un monde qui irait bien, et que derrière, bah voilà, il y a des coupes budgétaires, il y a plein de choses qui font que bah, on a envie de faire plus, et on peut pas répondre à tous les besoins parce qu'évidemment il y en a énormément, mais on aurait envie d'avoir la possibilité de faire plus. Donc c'est ça, c'est de dire, c'est de raconter ce qu'on fait de la manière la plus transparente possible pour que les personnes puissent se rendre compte de qui sont les personnes qu'on accompagne, parce que c'est ça des fois aussi qui est compliqué à faire comprendre aux personnes, c'est de dire, bah voilà, nous ce qu'on fait, et il y a des choses qu'on peut attendre, il y a des choses qu'on ne peut pas attendre. Donc nous, on est vraiment prise avec la réalité du terrain. Donc voilà. C'est parfois les discours un peu stigmatisants qu'il peut y avoir aussi autour des femmes en précarité, moi qui m'embête beaucoup. Et puis après, c'est la situation au-delà des discours, c'est que je vois que la situation ne s'améliore pas du tout, et c'est cette précarisation un peu générale qui s'applique à beaucoup de personnes. Mais des fois, je trouve que les personnes ont un petit peu du mal à le voir, et alors qu'elle est là, clairement. Et c'est vrai qu'après, nous, on accueille un public qui est vraiment en grande précarité. Donc voilà, c'est encore différent, parce que du coup, on est de plein fouet témoin de tout ça. Donc c'est parfois difficile, et ça peut mettre en colère. Mais encore une fois, il faut être suffisante. Oui.
Développer cet aspect-là, Cécile, parce qu'effectivement, c'est pas forcément aussi évident que ça à voir. Est-ce que toi, tu as le sentiment, ou plus que le sentiment, la certitude que aujourd'hui, le sujet de la grande précarité est de plus en plus critique en France? Tu as ce sentiment-là qu'il y a de plus en plus de femmes à la rue
Alors,
ou...
la grande précarité, donc quand on parle de grande précarité, on parle aussi de tout ce qui est précarité au niveau du logement et donc de l'hébergement. Donc, des personnes qui sont, ça inclut aussi des personnes qui sont vraiment en situation de rue. Donc, c'est, voilà, grande précarité. Oui, ça, il y a des chiffres et on voit qu'en 10 ans, le nombre de personnes sans domicile fixe a doublé. Donc, ça, c'est d'un rapport de la Fondation Abbé Pierre. Donc voilà, ça, ce sont des chiffres qui sont là, qui sont bien présents, que la part des femmes ne cesse d'augmenter, c'est un autre fait, qu'il y a une partie des femmes qui sont invisibles, comme je le disais tout à l'heure, donc qu'on ne voit pas et qui ne sont pas comptabilisées, mais qui passent un petit peu entre les mailles du filet. Et là, il y a des travaux, hein, de sociologues qui sont menés justement sur qu'est-ce qu'aujourd'hui, qui sont les femmes en grande précarité. Parce qu'il y a, y a des profils aussi très différents, mais je veux dire, voilà, il y a toute une partie des femmes qu'on ne voit pas. Et puis après, bah, il suffit de voir aussi l'aide alimentaire. Aujourd'hui, c'est 7 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire et les chiffres augmentent. Donc ça veut dire quelque chose. Et ce n'est pas que les personnes qui sont en grande précarité. Ce sont aussi des personnes qui ont des logements, mais qui aujourd'hui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Donc c'est ça qui est. C'est ça que je trouve qui est quand même assez visible et que parfois, bah voilà, nous, c'est pas la charité auprès des plus pauvres qu'on fait. C'est aussi de se dire, bah, on s'inscrit dans une situation très générale de précarisation. Et en l'occurrence, nous, on travaille sur des femmes qui sont en grande précarité, mais il faut pas oublier que c'est pas nous, elles, et puis voilà, non, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait pour que ces personnes soient entendues, pour qu'on soit nous un peu tous entendus et qu'on fasse un petit peu changer les choses. C'est plutôt ça. Je vois pas une grande scission, évidemment. On n'est pas dans la situation des personnes qu'on accueille, ça c'est important de le dire, parce que sinon on ne serait pas en capacité de pouvoir les accompagner. Mais il faut bien se dire que voilà, tout ça fait partie d'un même panorama qui moi je trouve n'est pas très très réjouissant. Après là c'est pas très joyeux ce dont on parle, évidemment qu'il y
C'est la
a
vérité, hein. La vérité n'est pas
mais
que
voilà,
tu vois.
c'est un petit peu la réalité. Voilà, c'est un petit peu la réalité et puis ça ne veut pas dire que la vie n'est pas belle dans d'autres aspects, mais en
Ouais.
tout cas
Mais
sur
tu
les
sais, merci effectivement, tu vois, de nous ouvrir les yeux, hein, sur ce que tu décris, sur la situation de la grande précarité, le doublement de personnes à la rue, en France. Tu sais, l'expliquer, toi, Cécile, qu'est-ce qui se passe exactement dans cette société qui met de plus en plus de gens, et notamment de femmes, à la rue.
Alors, il faudrait faire de la politique peut-être et faire avoir une analyse un petit peu concrète de notre société, dont voilà, la manière aussi dans la société, enfin l'évolution de la société et tout ce qui se passe un petit peu aussi économiquement. Je pense que voilà, mais je Après, ce sont des sujets très politiques, donc moi, j'ai pas de réponse, si ce n'est que je pense qu'il y a, il y a des profits qui sont faits sur le dos de beaucoup de personnes, en fait, et qu'aujourd'hui, c'est plus possible, et qu'il y a une précarisation qui est due un petit peu à, voilà, à une exploitation un petit peu massive, mais... Je suis un petit peu light, mais après, voilà, il y a des choses qui pour moi sont un petit peu plus globales, de l'ordre, voilà, d'un capitalisme un petit peu défaillant et qui du coup se refait un petit peu sur les personnes les plus précaires. Voilà.
D'accord. Ouais, toi, ce sur quoi tu mets le doigt, c'est sur une évolution, on va dire, j'allais presque dire systémique, c'est un peu un gros mot, mais avec un capitalisme débridé qui, effectivement, met un peu sur la touche, malheureusement, de plus en plus de monde. C'est plus ça, selon toi, que des évolutions au niveau du cercle familial ou au niveau social
Non, mais
proche.
y a tout ça se cumule et s'imbrique, bien évidemment. Y a des, moi, je pense qu'il y a effectivement, y a des logiques économiques, il y a des logiques systémiques qui sont là. Et après, y a des vulnérabilités aussi qui sont présentes, bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, la santé mentale en fait partie. Santé mentale et précarité s'alimentent énormément. Évidemment, quand on est en précarité, en grande précarité, on peut être sujet à de la souffrance psychique ou à des troubles. Et l'inverse est possible aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de personnes à la rue qui n'ont pas été diagnostiquées ou qui ont été diagnostiquées, qui ont des troubles et qui n'ont malheureusement pas eu le suivi adapté et qui ont, en plus de ça, voilà, sont assez isolés. Voilà, c'est le fait aussi, c'est il y a aussi beaucoup d'isolement hein, dans les personnes en grande précarité. Bien évidemment qu'il n'y a pas qu'une cause, mais je pense qu'il y a un grand chapeau et qu'ensuite il y a des vulnérabilités, il y a des choses qui s'ajoutent, bien sûr, bien sûr, et que tout ça s'alimente énormément.
Merci beaucoup, Cécile. On arrive au terme de notre échange. Il y a une question rituelle que j'aime poser et à laquelle tu n'échapperas pas. Nous, chez Big Bloom, on croit profondément à la force des rencontres. On ne fait que ça, en fait, d'organiser des événements d'intelligence collective qui permettent à des gens de se rencontrer, qui viennent du monde des grandes entreprises, du monde associatif, etc. Avec cette conviction que toutes les rencontres sont fertiles, elles génèrent des choses auxquelles on ne s'attendait peut-être pas toujours à chaque fois. Est-ce que toi, Cécile, est-ce qu'il y a une. Y a-t-il une rencontre qui a changé ta vie?
Alors, il y en a eu beaucoup de rencontres qui ont changé ma vie, vraiment, parce que j'ai vraiment rencontré des personnes extraordinaires. Et je pense, bah, dans le cadre, vu que là, le sujet, c'est un petit peu aussi le filon et mon activité professionnelle, moi, je dirais que Perrine Meunier, la fondatrice du filon, c'est quand même quelqu'un que j'ai rencontré et qui a un peu changé ma vie. Parce que avant, moi, je travaillais pas, je n'étais pas dans le travail social. Et que cette personne m'a donné en fait l'envie et m'a fait confiance surtout quand je suis arrivée en tant que bénévole. Donc je dirais que elle, oui. Après voilà, y a les rencontres autres, type mon compagnon et j'ai une petite fille aujourd'hui d'un an et demi que j'aime de tout mon cœur. Donc pour moi, ça c'est aussi des grands grands changements de vie. Et qui sont fondamentaux, mais voilà, il y a différentes sphères de la vie, et donc oui, dans toutes ces sphères, il y a eu des rencontres hyper importantes.
Merci Cécile. Et voilà, c'était By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale raconté par ceux qui la font. Merci pour votre écoute. J'espère que cet échange vous aura inspiré et donné envie, vous aussi, de vous engager pour l'innovation sociale. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. Rendez-vous sur www.bigbloom.org pour découvrir tous nos prochains hackathons solidaires à venir. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.